c'est quoi une date de péremption ?
Bah, date de péremption aussi, gros sujet polémique, hein, parce qu'à la base, c'est supposé être, tu vois, une date à laquelle tu ne peux plus consommer un aliment. Sauf qu'il y a toujours des gens un peu complotistes qui sont complètement contre, qui sont là, non, c'est la fausse date. La vraie date, c'est deux semaines après, minimum. Ton yogourt, tu peux complètement le manger. Mais papy, il y a des poils. Et alors ça fera tes immunités. Mais oui, mais ça date de 97. Et alors
CO2, mon amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui tente de rapprocher l'homme en nous rapprochant de la nature. À la technique aujourd'hui, il y a Clément Vuillet. Merci Yanora Hamzaoui que vous avez entendu là, oui, dans le générique concocté par Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission. Nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès et notre stagiaire Alice Michaud. Émission qui commence toujours par une petite humeur, évidemment d'actualité, avec cette goutte de diesel qui fait déborder le vase en colère, avec des gens qui galèrent, des « j'en ai plus rien à faire » car la France n'est pas qu'une immense start-up nation rêvée par nos dirigeants. Mais alors dites donc, si dans le moindre bout de commune de France, des apprentis jockeys, toc rouge, kazakh fluo sont capables de cavaler dans la rue le mort aux dents et de bloquer le pays pour de réelles raisons qui résonnent, qui dépasse de loin d'ailleurs la taxe carbone, que se passera-t-il le jour où ces mêmes chevaliers blancs et jaunes se rendront compte que la terre des hommes n'en peut plus d'être lessivée, pillée, empoisonnée, asphyxiée par cette gabegie de production et de consommation délirante sans avoir forcément bougé le petit doigt? Et qu'au long des trottoirs, sur les places publiques, la marche des coquelicots, car oui, nous voulons aussi des coquelicots, cette marche les avait modestement devancés sur des sujets encore plus brûlants pour l'avenir des enfants du monde. Alors c'est absolument le choc du court terme et du long terme, hein, du climat qui ne se voit pas totalement dans notre pays, mais qui frappe à la porte de tous les pays et du nôtre aussi. Alors il y a la note incalculable que la Terre va infliger à notre égoïsme à courte vue. Il y a les peuples, hein, qui fuient déjà la violence, la misère, qui en sont eux aux gilets de sauvetage et nous juste aux gilets jaunes. Alors il y aura toujours culturellement des inconditionnels de la voiture et ceux qui sont contraints de la prendre.
Bonjour Catherine, j'habite dans l'avant-pays savoyard et je vous téléphone parce que à l'heure de l'augmentation du coût de l'essence, de l'écologie, du il faut prendre les transports en commun, ben voilà, nos petites gares de l'Épargne-le-Lac et Pont-de-Beauvoisin dans l'avant-pays savoyard ne vont plus avoir que 25% des trains, des TER qui y passaient auparavant. Donc les gens qui vont travailler à Chambéry, à Grenoble, à Lyon vont être obligés d'y aller en voiture. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule de notre magnifique région qu'est l'avant-pays savoyard. Au revoir.
Et les SUV, les fameux SUV, les voitures, donc qui représentent un tiers des ventes des véhicules neufs, donc parmi les plus polluants. À côté de ça, Total pourra forer donc au large de la Guyane. Voilà, j'étale mon urbain sur une tartine de terre saine car la ville est trop chère. Et le climat, plus rapide que nos habitudes, eh bien, il regarde, il pose sa patte de chaleur en appuyant plus ou moins fort avec son chalumeau selon les endroits du globe. Alors le Rhin a soif, le lac d'Annecy a tiré la bombe de son joli lavabo aux yeux bleus, trop de pluie en hiver, pas assez en été. Les torrents sont maigres, les montagnes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais pleurer avec quelles eaux demain ? Pâturage grillé, foin d'été déjà avalé par l'automne des bêtes, canon à neige, écologie, économie sont dans le même bateau, mais qui va tomber à l'eau. Mais de l'eau, il y en a peu, alors au moins on ne risque pas de se noyer. Apprendre tous ensemble à conjuguer le mot rareté.
Donc ici, les toutes jeunes sont au foin, et vous voyez déjà plus loin, on va s'avancer. Les plus grosses jeunisses, donc, qui sont déjà rentrées, sont à la paille. Nous avons tapé dans les stocks, ce qu'on appelle taper dans les stocks, dans la récolte. Nous avons complémenté davantage avec des concentrés, nous, un mélange de soja et de céréales. Et puis, nous avons accepté aussi une baisse de production laitière de 20 à 30% suivant les mois, parce que les vaches n'étaient pas nourries suffisamment. Mais je pense qu'il faut aller sur une agriculture autonome, qui est responsable, bien sûr, de l'environnement, autonome et économe. Il faudra sortir de cette compétition, de ce productivisme. Il ne faut pas avoir trop grand, ce que j'appellerais système plus extensif par rapport à l'intensif.
Et dans le ciel, les grues stars du Festival de la photographie de Montier-en-Der ce week-end scrutent encore les zones humides. Alors ce sera une bande-annonce tout ça, hein, de la vie de demain, va quand même falloir s'y faire. Eh, hey, oh, papé, et qu'est-ce qu'il y a, Galinette? Eh bien j'aimerais que pour la Terre, et ici pour nos terres, on trouve la manante des sources 2018. Oh, dès que je te la trouve, Galinette, ta déesse des sources et de la pluie, promis, avec la Terre, on la marie. Alors, petite présentation de notre sujet, de notre débat aujourd'hui avec Franck Gintrand, Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes, c'est votre ouvrage aux éditions Thierry Soucard. Bonjour à vous, Franck Gintrand.
Bonjour.
Alors, Franck Gintrand, juste, on pose le décor, là, en quelques mots, donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire dans cet ouvrage?
Qu'il était temps de réagir, qu'on ne pouvait pas laisser indéfiniment les zones commerciales se multiplier et s'étendre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une unanimité pour dire que ça se fait au détriment des centres-villes et donc des villes. Et donc je souhaite qu'il y ait une prise de conscience au niveau du gouvernement et de l'État pour que ce phénomène trouve enfin une limite avant qu'il ne soit trop tard.
Alors Antoine Frey, donc avec nous, alors vous êtes avec nous, mais depuis donc France Bleu Champagne, on remercie nos amis Alexandre Laurent et Victor Bois, donc qui assure la technique, parce que vous êtes dans cette très belle ville de Reims. Bonjour à vous Antoine Frey.
Bonjour.
Alors vous êtes le président du Conseil national des centres commerciaux et du groupe Frey dont vous êtes à la tête. Donc vous êtes vraiment une foncière, vous construisez, vous gérez, vous louez du mètre carré donc avec ces différents centres commerciaux. Juste aussi pour poser le décor, pour vous, vous n'allez pas exactement être du même avis, j'imagine bien, entre les centres-villes qui se désertifient. On parle bien des petites villes, des villes de 10 000, 15 000, 40 000 habitants, pas les grandes métropoles qui se portent bien. Et évidemment ce que vient de dire Franck Gintrand.
Ouais, je vais avoir du mal à vous cacher que je ne partage pas son opinion.
Normal.
C'est très français de trouver des solutions simples à des problèmes compliqués et des coupables idéales. Donc on est un petit peu fatigué d'être ce coupable idéal.
Bon, d'accord. Donc nous allons effectivement détailler tout cela. Donc c'est le décor donc de cette émission. Et nous débutons donc en musique. C'était Charles Bradley sur France Inter, CO2 mon amour, grande surface aujourd'hui.
CO2 mon amour.
Vous avez vu? Vous tombez un jour de promotion exceptionnelle.
J'ai vu.
Et depuis un an, nous avons réaménagé les rayons selon un ordre que j'appellerais thématique, afin de permettre à la clientèle un accès plus attrayant, plus efficace, une sorte de mieux-disant commercial.
Denis Chessot sur France Inter.
Ah oui, un extrait de Quelques jours sans moi, donc avec Marielle, vous l'aviez reconnu. 1963, Sainte-Geneviève-des-Bois, Carrefour. Invention française, exception française, nous inventons donc le premier super et après hypermarché, c'est-à-dire toute l'offre sous un même toit pour étancher nos soifs d'achat. Ceci fonctionne avec quand même la Sainte Trinité, l'hypermarché, la voiture, le réfrigérateur. Et oui, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, 2000 hypermarchés, 10 000 supermarchés, deux fois plus de surface en 2008 avec des extensions qu'aujourd'hui quand même, et 800 centres commerciaux, environ, pardonnez-moi l'approximation, 20 millions donc de mètres carrés, avec plusieurs dizaines de milliers de magasins. Et c'est vrai que quand on traverse la France, les centres-villes, pour certains qui sont anémiés, on se dit ça va pas très très fort. On peut rajouter aussi quand même cette question qu'on avait commencé à aborder dans cette émission il y a une quinzaine d'années, c'était pourquoi les entrées de ville sont-elles aussi moches? Faut bien le dire, autant tous les centres ont été absolument rénovés hein, depuis déjà une trentaine d'années, tous les centres-villes sont extraordinaires. Mais les entrées de ville qui sont d'ailleurs très souvent en banlieue, on va dire en périurbain, eh ben c'est pas joyeux du tout. Et ben voilà, donc ce débat nous intéresse bien, donc avec Franck Gintran d'un côté, Antoine Frey de l'Aube, merci d'ailleurs d'être avec nous, parce que c'est pas forcément facile de prendre la parole, même si vous avez tous les arguments qu'il faut. Antoine Frey, c'est vrai que vous réfutez, on va dire, cette opposition périphérie et centre-ville entre la grande distribution et les petits commerces. Vous disiez, bah voilà, c'est peut-être très simple, on nous accuse, on est des boucs émissaires. Alors expliquez-nous effectivement pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cela, s'il vous plaît.
Ben, je voudrais déjà vous féliciter parce que c'est courageux d'inviter le représentant d'une industrie qui est aussi mal présenté dans le livre de Monsieur Gintran. J'espère que mes enfants liront pas ce livre, parce que je pense sincèrement qu'à part fabricant d'armes ou de glyphosate, il n'y a pas d'industrie pire que celle que la nôtre dans la façon dont elle est présentée.
Bon,
je pense qu'on oublie en fait que le développement de l'urbanisme en France, qui aujourd'hui en termes de densité commerciale, parce que on annonce des chiffres qui sont souvent très spectaculaires, c'est 27 centimètres carrés par habitant la densité commerciale en France, et c'est la moyenne européenne. Et on oublie de dire que ce développement, il a été le fruit de relations entre adultes consentants pendant 40 ans, entre une industrie qui s'est développée et des élus qui, contrairement à ce que dit Monsieur Gintran, ne sont pas des gogos qui auraient été abusés par une industrie suppôt du grand capital artificialisant les terres cultivables avec cynisme et plaisir. Voilà.
Oui, c'est quand même un peu le grand capital malgré tout, ce qui n'est pas forcément... voilà.
Mais attendez, c'est une industrie qui est à but lucratif, tout comme Monsieur Gintran. Je pense que le produit de son livre de 12,90 €, il n'est pas reversé à une association, et il a bien écrit ce livre pour faire du profit et pour s'enrichir.
Et il sera peut-être vendu d'ailleurs dans les grandes surfaces.
Il sera vendu tout à fait dans les grandes surfaces. et cette industrie, il ne faut pas oublier qu'elle emploie aujourd'hui 525 000 personnes.
Alors
en
voilà,
France,
qu'est-ce que ça représente? C'est 525 000
c'est
5, personnes.
525 000 emplois, et c'est 5% du PIB.
Oui. D'accord. Hein, donc...
C'est une industrie qui a toujours été une industrie de pionniers, qui s'est exportée aux quatre coins du monde, qui est une industrie leader dont on peut être fier. Donc on en a un petit peu assez d'être stigmatisé comme ça.
Très bien. Non, mais c'est pour ça effectivement qu'on vous donne la parole dans cette émission. C'est un débat. Donc 525 000 emplois, on voit bien qu'il y a déjà l'argument à l'emploi qui pointe. Alors Franck Gintran, bon, effectivement, on a bien compris que vous n'ayez pas forcément passé un 31 décembre ensemble, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on est dans débat, émission, démocratie, tout va bien. Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes. Alors effectivement, votre thèse à vous, s'il vous plaît.
Alors, je voudrais juste préciser une chose à Antoine Frey, c'est que je ne suis pas l'ennemi des centres commerciaux. Il y a des centres commerciaux en centre-ville qui participent au dynamisme des centres-villes et qui ont évidemment toutes leurs raisons d'être. Moi, ce contre quoi je me bats, ce sont les centres commerciaux, les zones commerciales de périphérie, dont Monsieur Frey est un spécialiste.
C'est son métier.
C'est un peu son métier. Bah,
sûr,
c'est
oui,
un
oui.
peu son métier. Donc, il y a centres commerciaux et centres commerciaux. Donc, ça, c'est un premier point qu'il faut quand même souligner. Moi, je suis radicalement opposé aux zones commerciales et non pas aux aux centres commerciaux de centre-ville. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis tout à fait admiratif du talent dont fait preuve Monsieur Frey dans son développement. Il a bien compris que il allait être de plus en plus compliqué de planter des boîtes à chaussures dans des champs, quoique il continue de le faire. On pourra en parler sur certaines localités. Et donc, comme il est bien conscient du fait que la résistance environnementale commence à se manifester, il tient un discours aux élus aujourd'hui qui ne manquent pas de scène. Il consiste à leur dire vous avez des entrées de ville absolument horribles. Moi, je vais vous les embellir. Alors, je vais vous les embellir, mais cela dit, à deux conditions. La première, c'est qu'il faudra quelques mètres carrés de plus. On va artificialiser un peu de terre agricole. C'est pas très grave parce qu'au final, ça représente au bout du compte pas grand-chose. Et puis, il faut rajouter quand même quelques commerces parce que finalement, il y en a pas assez pour que cette zone devienne véritablement attractive. Donc, Antoine Frey, voilà, il a bien compris ce qu'était le business de demain. Au MAPI, il a encore fait un exposé sur sa stratégie.
Alors, ça faut le dire parce que c'est vrai qu'on a cette émission là aussi parce que donc c'était à Cannes là cette semaine.
Au MAPI, le salon des professionnels. Ouais. Donc il a fait un exposé extrêmement brillant
sur le commerce,
sur les zones commerciales. Donc où il explique que les zones commerciales c'est l'avenir de demain. Donc voilà, je voudrais juste dire une chose, c'est que Antoine Frey n'est pas le rénovateur des zones commerciales qui prétend être. Sur ses actifs, ça ne représente que une infime minorité aujourd'hui de ses réalisations et de ses projets. La plupart de ses réalisations et de ses projets sont des créations pures et simples, et non pas des rénovations, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, tous ces actifs se trouvent en périphérie. Et c'est bien le problème.
Alors, donc Antoine Frey, comment on voit cette affaire demain ? C'est-à-dire qu'on a à la fois, on va dire, quand même un PIB qui est un petit peu atone, hein, les gens, la manifestation d'aujourd'hui donc le prouve aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une question de pouvoir d'achat qui est importante, et on continue à ouvrir donc des centres commerciaux ou bien des hyper. Donc là, on comprend pas forcément très bien, et on en voit aussi qui sont en déshérence, c'est-à-dire qui ont été laminés par la concurrence. Là, c'est pas par les écolos, c'est par la concurrence. Donc, c'est quoi le modèle pour vous?
Le modèle pour nous, je remercie Monsieur Gintemps pour toute sa gentillesse, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat important aujourd'hui. C'est pas mon groupe, mon activité. C'est celle de cette industrie. L'important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'effectivement, ces zones, elles ont été développées de façon anarchique par le passé. Et aujourd'hui, alors n'en plaise ou n'en déplaise à Monsieur Gintemps, les restructurer et les transformer, recomposer le millefeuille de propriétaires et d'exploitants différents dans ces zones, dans un ensemble de nouvelles générations plus mixtes, plus urbains, plus écologiques, je suis désolé de le dire, ça me semble être une solution qui n'est pas si sotte que ça. En tout état de cause, dans ce livre, je vois pas vraiment de solution, c'est peut-être pour le tome 2, c'est peut-être une façon de faire du teasing pour le tome 2. La vraie question, c'est quel modèle de société on veut demain. Ces zones aujourd'hui, elles ont besoin de se transformer pour pouvoir offrir aux consommateurs une bonne raison de venir les visiter, tout comme les centres-villes qui ont aussi besoin de se transformer. Donc est-ce qu'on veut en fait un statu quo qui empêche les uns et les autres de le faire, au profit de qui ? Au profit du commerce online. Et je pose la question, le lien social, il se crée en centre-ville, il se crée en entrée de ville, il se crée pas dans une plateforme logistique. Donc, quel modèle de société veut Monsieur Gintemps demain ?
Alors, Franck Gintemps.
Alors, peut-être une première chose, c'est toujours sur les zones commerciales, la vocation des zones commerciales a été complètement dévoyée par rapport à ce qu'était leur mission d'origine. À l'origine, les zones commerciales avaient pour vocation d'accueillir des grandes surfaces qui ne pouvaient pas trouver leur place en centre-ville. Quand je dis des grandes surfaces, c'est des grandes surfaces alimentaires, des grandes surfaces spécialisées, des entrepôts, des concessionnaires automobiles, autant d'activités qui ne pouvaient logiquement pas trouver leur place en ville. Ce que des acteurs comme Antoine Frey font aujourd'hui, et d'ailleurs ça ne manque pas de piquant puisque en réalité les zones que Antoine Frey se propose de rénover aujourd'hui sont des zones qui ont été en partie conçues par son oncle Jean-Jacques Frey. Donc ça ne manque pas de piquant, hein. C'est-à-dire qu'on fait
famille,
du business
voilà,
une première fois puis on en fait une deuxième.
Faire et défaire, c'est toujours travailler.
On travaille en famille, on travaille en famille. Donc c'est parfait. Hein. peut-être qu'il y aura une troisième génération après pour expliquer comment il faut rapatrier le commerce de périphérie sur le centre-ville. Enfin, disons qu'aujourd'hui, voilà, ce que Antoine Frey se propose de faire, c'est de dévoyer la vocation de ces zones en y mettant du commerce qui traditionnellement est du commerce de centre-ville. Et c'est là où clairement on ne peut pas accepter cette dérive. C'est là où cette dérive est dangereuse.
C'est là que vous dites que c'est une pompe aspirante.
C'est une pompe aspirante. Je vous cite un exemple. Antoine Frey a fait shopping promenade à Amiens, décidément. On va faire la promotion d'Antoine Frey, mais peu importe, à la limite,
c'est un cas, bon dans ce domaine.
Les exemples sont toujours intéressants. Ah oui. Donc Antoine Frey a fait une zone de 40 000 m² au nord d'Amiens, si je ne me trompe. Et en fait, un an après l'ouverture, c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que on constate que qui morfle dans l'histoire, c'est la zone d'à côté, Carrefour et sa galerie marchande, et c'est le centre-ville qui a constaté effectivement une baisse de sa fréquentation. Donc en fait, on est bien là dans un jeu de massacre qui s'explique encore une fois par le fait que ces zones commerciales qui auraient dû rester des zones commerciales où sont implantées ou devraient être implantées des activités qui ne peuvent pas l'être en ville deviennent en réalité des centres-villes alternatifs.
Est-ce qu'Antoine Frey vous dites qu'en fait on ne fait que suivre les gens en périphérie ou bien comme David Mangin qui est quand même un grand urbaniste aussi et lui ce qu'il voit c'est que les centres commerciaux précèdent les mouvements de population ?
Alors, je pense sincèrement que les problèmes que rencontrent certains centres-villes sont le fruit d'une addition de causes bien plus importante que le simple facteur concurrentiel. Une problématique d'accessibilité, une problématique de parking, une problématique d'offre de logement qui aujourd'hui dans beaucoup de ces centres-villes n'est pas forcément adaptée aux attentes des jeunes consommateurs, une problématique de services publics qui ont parfois quitté ces centres-villes. Et puis en grandissant, ces villes ont développé différents points de centralité. Donc je trouve que on met une focale sur le commerce périurbain qui est beaucoup trop importante. Vous parliez d'artificialisation de terres cultivables tout à l'heure. À chaque fois qu'on en parle, on montre l'image d'un centre commercial. C'est 4%. La source, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est 4%. Le logement, c'est 50%, pour vous donner une
échelle. Et les infrastructures, c'est 20% pour les infrastructures, autoroutes, parkings, industries, etc.
Voilà, donc je pense qu'on fait une focale qui est très très sensiblement exagérée et ce livre en est l'exemple. Alors je remercie à Monsieur Gintrand de faire ma pub, c'est très sympathique. Je l'invite à lire le courrier Picard de la semaine dernière qui justement explique que ce qu'on a réalisé à Amiens a profité notoirement à l'ensemble de cette zone nord d'Amiens qui est une zone, elle, qui est manifestement une zone fortement faible à Amiens et qui a profité de l'attractivité de ce qu'on a apporté. Donc voilà, je trouve qu'on... On exagère très très largement.
Alors écoutez, ce petit son là, ça nous vient du côté de la ville de Troyes.
Voilà l'aspirateur Auchan dans toute sa splendeur. Je me dis, tous nos commerçants qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire tourner leur commerce, et ben là, je crois qu'on ne joue pas du tout à armes égales, quoi. On ne joue pas du tout dans la même cour. Alors ici, on a le magasin de Troyes qui lui a fermé il y a à peu près 2 ans. Ici, Jouet Club, qui était vraiment un lieu de rendez-vous pour évidemment les familles, les choses comme ça. On a une boulangerie aussi qui a fermé juste en bas. Quand les gens ne viennent plus en centre-ville, mais vont systématiquement le samedi ou bien même les autres jours, mais le samedi c'est significatif, dans les grandes surfaces, forcément, en ville, on en paye les pots cassés.
Alors pardonnez-moi, nous n'étions pas dans l'Aube, nous étions à Douai, donc c'était la présidente des commerçants en fait de Douai qui parle de cette désertification des centres-villes. On entend bien, hein, Antoine Frey, que évidemment ça peut pas être que les grandes surfaces qui assèchent tout et que vous avez bien mis en avant aussi les autres problèmes donc qui peuvent exister. Vous, alors votre truc c'est de rénover, hein, c'est-à-dire en gros c'est ça que pour vous le business de demain, c'est de faire par exemple l'ode à la mer, c'est-à-dire Montpellier, une affaire qui remonte à quasiment 20 ans avec donc un tramway donc qui va arriver et qui va donc aller du côté de la mer, pas dans la mer quand même. Mais là, on constate effectivement que ça va être quoi ? On va essayer de recréer des bouts de ville ou bien ça va être on essayer de rénover un centre commercial qui était quand même gentiment pourri au niveau de la au niveau du visuel et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est quoi derrière ?
En l'occurrence, Aude à la mer, c'est un projet urbain qui est majeur, dont l'objet est en fait de recoudre Montpellier au littoral.
C'est ça.
En détruisant une zone commerciale sur laquelle s'étalaient tout un tas de boîtes en bardage métallique horribles, et je partage cette analyse qui ont été réalisées il y a une trentaine d'années, en transférant ces commerces dans un équipement de nouvelle génération beaucoup plus compact et beaucoup moins utilisateur de sol, puisque on a un grand parking mutualisé qui est en sous-sol, rendre une partie des terrains ainsi libérés à la nature, puisqu'il y a une problématique hydraulique très importante, notamment sur un cours d'eau qui s'appelle le Neckar,
moins qu'on puisse dire,
et
oui.
on pourra comme ça régler ce problème et fabriquer de la ville autour et au-dessus de ce projet, avec des logements, des résidences étudiantes, du bureau, des hôtels. Donc on fabrique bien de la ville en lieu et place de ces zones commerciales périurbaine aujourd'hui.
Alors, Franck Gintran.
Alors, Audelamer, c'est un très bon exemple. Hein. Audelamer, c'est Montpellier, effectivement. Montpellier, c'est la guerre des zones commerciales dans toute sa splendeur. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a une zone qui s'appelle un centre commercial qui s'appelle Odysseum, qui vient de décrocher une augmentation de sa surface de 15 000 m². Il faut savoir que Audelamer, ce ne sera pas uniquement du remplacement de commerces comme Antoine Fraisse y était formellement engagé, mais qu'il y aura des commerces supplémentaires. Donc là, clairement, il y a un mépris de la parole donnée qui me semble à peu près évident. Et puis, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques qu'ailleurs en ce qui concerne ces projets. C'est-à-dire, non seulement on rajoute du commerce traditionnellement implanté en centre-ville, mais en plus, on artificialise de la terre. Je donne quelques chiffres.
Hein, 15 hectares.
Oui, 15 hectares à Montpellier, 30 hectares au Mans et 50 hectares à Strasbourg. En fait, il faut quand même savoir une chose, c'est que pour chaque opération de rénovation de zone commerciale, il y a nécessairement toujours une demande d'extension. Ça n'est jamais une demande désintéressée.
Alors ça, Antoine Fray, donc c'est la réalité, c'est qu'il y a toujours une demande d'extension. Alors, d'un côté, vous allez effectivement rendre de la terre, on l'a bien compris, et puis de l'autre, vous allez aussi en reprendre. Alors, on ne comprend pas tellement les...
Mais attendez, alors déjà, j'aimerais que Monsieur Gintran arrête de me traiter de menteur. Hein, ça commence à m'agacer. Je l'invite à regarder le règlement de l'appel à candidature qu'avait lancé la métropole de Montpellier sur le sujet d'Audelamer. Le cahier des charges était un transfert de 70% des surfaces. Il n'a jamais été question d'avoir un projet dont 100% des surfaces commerciales soient des transferts. L'autre élément, je pense, intéressant, c'est de regarder le ratio entre la surface occupée par ces commerces hier et la surface occupée par ces commerces demain. Dans cette zone commerciale à Montpellier, pour 1 mètre carré de construction, vous occupiez 4 mètres carrés de terrain. Et ça, c'est le fruit, non pas de la voracité de cette industrie de voyous, mais une législation, à l'époque de la loi Royer, qui poussait les opérateurs à réaliser une petite boîte les unes à côté des autres. De ce ratio de surface occupée de sol par rapport à la surface construite, on la divise par 3 en réalisant un équipement beaucoup plus compact et beaucoup plus mixte, puisqu'on réalise au-dessus de cet équipement un grand espace public de loisirs, du bureau et un hôtel. Donc je vois pas bien quel est le manque de vertu de ce projet. Et puis je voudrais demander à Monsieur Gintran, qu'est-ce qu'il nous propose concrètement pour restructurer ce genre de zone.
Alors, moi je pense que on manque de logements, hein, donc ce serait bien de consacrer ces terrains qui sont des terrains déjà urbanisés. D'abord de ne pas artificialiser de la terre en plus, ce serait déjà une première chose. Hein. La deuxième chose, c'est on manque de logements, donc à mon sens ces zones aurait tout intérêt à être plutôt construite en logement. Donc ça c'est, et plutôt qu'en commerce, parce que le commerce, la place naturelle du marché du commerce, c'est dans les centres-villes, Monsieur Fray, sauf encore une fois en ce qui concerne les grandes surfaces. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en ce qui concerne l'artificialisation de la terre agricole, il y a un projet aujourd'hui qui est travaillé par un certain nombre de parlementaires, et donc j'espère qu'il va pouvoir trouver sa traduction en 2019, de taxation des opérations en plein champ.
C'était voilà. Donc l'idée de la taxe ULO.
C'est la taxe ULO. Hein. Ouais. Et donc maintenant,
sur l'artificialisation des terres agricoles, parce que quand même, c'est quand même une des clés. Dès qu'on touche au foncier en France, on a une histoire de notre France.
Absolument.
Donc aujourd'hui, ces terres agricoles, en fait, ne coûtent pas grand-chose.
Elles ne coûtent rien en réalité. Hein, il faut en être conscient. J'ai eu de nombreuses discussions dans le cadre de la préparation de ce livre avec des professionnels qui m'ont dit, mais écoutez, entre nous, il faut être fou pour aller en centre-ville. Attendez, c'est compliqué. C'est cher, vous avez des recours. Alors que quand vous vous implantez en périphérie, vous avez tout le terrain que vous voulez, personne à côté, et vous faites financer une petite bretelle d'autoroute. Je dis, voilà, c'est ce système-là avec lequel il faut mettre auquel il faut mettre un terme.
Allez, un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques instants.
Soleil, le vent collé sur la rétine, L'étoile s'écroule juste devant. Dans le creux de la ville, j'ai l'odeur de la dernière danse, scotché dans les narines. L'écho de la sueur des gens se colle sur les vitrines. Les rues je les porte sur moi. Les cœurs brisés, les rêves mouillés, je les cueille comme ça. J'ai l'odeur de la dernière chance collée sur les habits. L'écho de la soirée des manges, le cœur liquide la ville.
Allez, Italie, Italie au Cachemire, hein, Dany Terreur, c'est sûr. Donc, Étoile du Cachemire, c'est sa chanson. Il s'en remet pas, il nous l'offre. Et c'est en vente, bien sûr, dans toutes les grandes surfaces.
CO2, mon amour.
Dans les supermarchés, on fait nos provisions. On peut dans les allées comme de vrais papillons. En passant nos cabines de rayon en rayon. On surveille les prix, attention, permission.
Sur France Inter.
Non, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. CO2, mon amour. Donc aujourd'hui, les grandes surfaces qui font un peu quand même polémique en France. En même temps, il y a une attirance, c'est vrai, il y a quand même des clients. Ben oui, il y a des clients. Il n'y a pas que le e-commerce, on pourra en parler d'ailleurs aussi avec vous, Antoine Frey. Je me retourne vers vous, Franck Gintran. Quand même, il y a eu aussi, d'un point de vue politique, des choses qui ont été extrêmement importantes. Il y a eu une loi de 2008, c'était sous Sarkozy, sous une bonne pression aussi de Leclerc. C'était quoi? C'était la libération des implantations.
Alors, en fait, en 2008, Nicolas Sarkozy avait mené sa campagne sur le pouvoir d'achat et il a pris la décision après l'élection de libéraliser le marché de la grande distribution en générant une guerre des prix et en ouvrant les vannes des implantations d'hypermarchés.
On espérait créer une relance de l'économie.
Alors, relance de l'économie qui n'est jamais arrivée, hein, mais on a finalement atteint un point qu'on n'imaginait pas, de multiplication des grandes surfaces qui ne demandaient en réalité qu'à s'implanter, encore une fois, en périphérie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système français a été choisi alors que d'autres pays ont fait un choix inverse, comme l'Allemagne.
Alors ça, c'est tout à fait intéressant et on va pouvoir en parler. On va commencer par l'Angleterre. On va en parler avec vous, Ariella Masbounji. Bonjour, Ariella Masbounji.
Bonjour. Bonjour Denis et bonjour aux invités.
Ben oui, que vous connaissez.
Vous. Bonjour. Antoine Frey, je connais Antoine Frey. Oui.
Bien sûr. Alors vous êtes architecte urbaniste, vous êtes essayiste. Vous venez de sortir, et d'ailleurs on en parlera d'ici quelques semaines, 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires. Qui peut faire quoi aux éditions du Moniteur? Là, vous êtes trois donc à avoir rédigé cet ouvrage, mais ça, on y reviendra. Vous avez été Grand Prix de l'urbanisme en 2016, et ça nous intéresse bien de savoir comment ça se passe ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres pays, peut-être en particulier l'Angleterre. On reviendra aussi sur l'Allemagne, mais qu'est-ce qui se passe en Angleterre?
Denis, est-ce que je peux revenir d'abord quelques minutes sur Montpellier, qui est une histoire que je connais assez bien?
Allez-y.
Possible? Alors d'abord, je suis un peu gênée par la mise en accusation d'Antoine Frey dans cette affaire qui rentre dans une histoire que j'aimerais raconter très très rapidement. D'abord, il s'agit d'un projet urbain qui a été initié par un grand prix de l'urbanisme qui est Bernard Eichen, accompagné d'Alfred Péter, grand paysagiste, avec une idée qu'ils étaient en train d'élaborer le projet de territoire de la métropole Montpellier-Rennes, et ils ont eu l'idée de reconvertir cette zone épouvantable d'entrée de ville pour fabriquer une véritable avenue qui va à la mer en mixant les fonctions et en reprenant ses opérations commerciales. Ce qui est un sujet majeur en France, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais la laideur qui est produite par les centres commerciaux sur le territoire est quelque chose de terrifiant.
Oui.
La laideur et les modes de vie. Donc là, il y avait un véritable projet d'urbanisme porté par la collectivité, porté par les urbanistes, et pas seulement par Antoine Frey, qui est arrivé après dans l'affaire. Il y a également la société d'aménagement de Montpellier, la SERM, très mobilisée. Donc l'objectif était de transformer cette zone, et on découvre, comme partout ailleurs en France, que c'est très difficile. C'est-à-dire que ces boîtes à godasses, entourées de parkings, dont on pense qu'elles ne valent rien, en fait, ont une valeur. Elles ont la valeur, pour les expropriés, il faudrait payer ce qu'elles sont supposées gagner, pour résumer beaucoup. Donc ça n'est pas à la portée d'une collectivité, alors il faut les reloger. Voilà pourquoi d'ailleurs Antoine Frey est obligé de reloger les opérations qu'on va démolir dans son opération. Donc on a recherché un montage, et le montage est complexe. Et autre chose à dire de très important, c'est que grâce à l'intervention d'Alfred Péter, on a préservé 600 hectares de terres agricoles qui étaient inondables. Donc d'une certaine façon, le projet urbain améliore le territoire d'une façon considérable. Et le montage de l'opération amène malheureusement à densifier au plan commercial, mais amène aussi, comme le disait Antoine Frey, à gagner de la surface, parce que les boîtes, elles ne sont plus entourées de parking, comme c'était le cas, parce qu'avant, il y avait des petites boîtes toutes entourées d'une énorme surface de parking. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir problème dans la complémentarité avec Montpellier, et c'est des questions très complexes, et c'est très difficile d'être aussi caricatural entre le blanc et le noir. Hein.
Alors,
on est dans une tentative de faire un petit peu mieux.
Alors, merci. Non, mais d'accord, tout à fait, pour ce complément qui était nécessaire. Ariel Masbounji, donc maintenant, parlons des autres modèles donc en anglais, parce qu'on a un peu l'impression que la France est un grand pays rural qui est extrêmement permissif, c'est-à-dire que tout est constructible, sauf ce qu'on décide de ne pas l'être. Voilà. Et en Angleterre, comment ça se passe en Angleterre?
Alors, bizarrement, moi j'avais beaucoup étudié le cas anglais, puisque j'organise des colloques à l'étranger pour analyser les villes, et je fais des publications dans cet esprit. Alors, ce qui est très intéressant en Grande-Bretagne, c'est un pays ultra-libéral, c'est que la position vis-à-vis des centres commerciaux a été extrêmement rigide depuis très longtemps. En fait, depuis 1994, si je me souviens bien. C'est-à-dire, après le gouvernement Thatcher, John Major s'est entouré de conseils urbanistiques et a pris des mesures pour empêcher l'étalement urbain et limiter considérablement les centres commerciaux périphériques qui tuaient les villes, et qui étaient d'une très grande laideur d'ailleurs. Un certain nombre de règles ont été instituées, et en particulier qui se sont accentuées avec le temps aujourd'hui, qui ne permettent quasiment pas de construire un centre commercial en périphérie. Alors certes, les Anglais n'ont pas la puissance des opérateurs commerciaux français, ça c'est clair, donc c'est une des explications. Mais l'autre est réellement un objectif urbanistique. Il faut savoir que les villes anglaises ont commencé à souffrir bien avant les villes françaises. Le phénomène de désertification des centres a précédé presque d'une vingtaine d'années le processus en France, donc la prise de conscience est beaucoup plus ancienne.
Mais qu'est-ce que l'on doit prouver qu'est-ce que l'on doit prouver lorsque l'on est en Angleterre pour pouvoir construire donc un nouveau centre commercial?
Alors, pour construire un centre commercial, il faut d'abord le proposer en centre-ville, pour sauver le centre-ville. Ça, c'est la règle. Et ça ne suffit pas de le localiser en centre-ville. Il faut qu'il soit à proximité de transports en commun, commodes. Il faut aussi qu'il fabrique du tissu urbain. Dans notre langue d'urbaniste, ça veut dire, en fait, tisser le quartier, le nouveau quartier commercial, avec la ville, prolonger la ville existante. Ce qui veut dire qu'on n'entoure jamais le centre commercial de parking, jamais. Et il y a une continuité totale entre la ville et l'opération commerciale qui souvent est organisée en rue et place comme à Liverpool.
Et si vous prenez justement l'exemple...
Troisième mesure indispensable, c'est qu'il faut faire une étude d'impact sur le centre-ville et avoir fabriqué des commerces qui vont venir en complément de ceux qui existent et qui vont renforcer la centralité du centre-ville. Ça, c'est la règle. Alors, pour être très complet, si ça n'est pas possible, supposons qu'il n'y ait pas de terrain en centre-ville, à ce moment-là, on peut aller en edge city, ça veut dire la limite de la ville, mais avec exactement les mêmes conditions. Et il faut fabriquer du tissu urbain, faire une opération, donc faire une étude d'impact, et avoir également des transports en commun. Et si ça n'est vraiment pas possible, on peut aller en périphérie pour fabriquer une nouvelle centralité, mais avec les mêmes conditions. Comme c'est quasiment impossible, ça ne se fait plus. Voici la règle qui est très simple.
Alors Antoine Frey, pour vous, est-ce que ça vous pourriez l'accepter éventuellement? Je sais que c'est pas le cas en France, hein, on va y revenir, mais voilà, ces règles-là, pour vous, elles sont très 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 contraignantes.
Mais il y a aujourd'hui un grand nombre de collectivités qui font preuve d'une véritable discipline dans la gestion des équilibres commerciaux de leur territoire. Je vais prendre l'exemple de Strasbourg, où l'Eurométropole de Strasbourg a confié à mon groupe le soin de restructurer une des zones d'entrée de leur ville. Avant de décider de restructurer cette zone, ils ont défini un plan clair en termes de densité commerciale sur les 20 années à venir sur leur métropole. Et ils s'y tiennent. Et c'est cette discipline qui permet ensuite de préserver des équilibres et de répartir les équilibres et de l'attractivité. Donc il y a aujourd'hui déjà, si on appliquait déjà les règles correctement que l'on a, on pourrait tout à fait réussir à abonder et à aller dans ce sens.
C'est déjà comme en environnement, on a toutes les lois qu'il faut, mais elles ne sont pas forcément appliquées. Je me tourne vers vous, Franck Gintran. Alors maintenant, effectivement, essayons de voir, on va dire, entre guillemets, des solutions. On voit bien que ça a été une gangrène terrible pendant des années. Bon, voilà, maintenant on essaie de faire de la rénovation dans certains cas, c'est le boulot d'Antoine Frey et de son groupe et d'autres d'ailleurs. Si on veut faire bouger les choses, c'est quand même avec les élus que ça se passe, parce qu'on est quand même un pays très très libéral, ce qui n'est pas forcément un gros mot, mais si on laisse faire tout et n'importe quoi, on peut s'implanter n'importe où.
Alors, je voudrais d'abord rectifier une chose. L'activité d'Antoine Frey compte deux fois plus de création que de rénovation. Donc, s'il y a un doute, je vous invite à aller sur le site de l'Institut des Territoires, qui a recensé l'ensemble des dossiers d'Antoine Frey, et vous pourrez constater par vous-même qu'il y a deux fois plus de création que de rénovation.
Au niveau national, qu'est-ce que l'on peut faire?
La deuxième chose, au niveau national, qu'est-ce qu'on peut faire? La première remarque que je voudrais faire sur Strasbourg, c'est que Strasbourg est une métropole. Le problème se pose aujourd'hui majoritairement pour les petites et moyennes villes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si on en revient à la loi de 2008, la loi de 2008 interdit aux élus locaux d'invoquer le suréquipement commercial. C'est-à-dire ils ne peuvent pas justifier le refus d'un projet au motif que cela pourrait déséquilibrer ou dévitaliser leur centre-ville. Donc ça, si on n'a pas ça en tête, on ne comprend absolument pas ce qui se passe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les petites et moyennes villes, les promoteurs... Et c'est normal, c'est de bonne guerre, font du chantage aux élus. Et ils leur disent, écoutez, vous voulez pas de nous? C'est pas grave, on va aller chez le voisin. Vous n'aurez que les inconvénients et aucun avantage. C'est aujourd'hui comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que il ne peut y avoir de solution qu'au niveau national. Au niveau local, aujourd'hui, c'est la loi de la jungle, et la loi de la jungle, elle est dictée avant tout par le secteur privé.
Alors, au niveau national, c'est bon. Là, ça passe quand même par le législatif.
Ça passe par le législatif. Ça passe par le législatif, et c'est, j'y reviens. Excusez-moi d'insister. Je reviens à cette taxe Hulot. On peut décider de ses modalités, on peut discuter de son affectation, mais en tout état de cause, il faut que aujourd'hui, s'implanter. En plein dans les champs, ça coûte cher. Il faut que ça coûte cher. Il faut que les promoteurs payent le prix fort, parce que non seulement ils artificialisent de la terre, mais en plus ils le font dans des conditions de facilité qui n'existeraient pas s'ils étaient contraints de s'implanter en centre-ville. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut un moratoire sur les zones commerciales. On a atteint une situation dont, au final, tout le monde s'aperçoit qu'elle frise l'absurde. C'est-à-dire que on va arriver bientôt à une guerre entre les zones commerciales. C'est-à-dire, une fois que les centres-villes auront été vidés de leur substance.
Bah, ce sera fait si Europa City doit voir le jour.
Bah, alors, par exemple, si Europa City doit voir le jour, et ben Europa City fera la guerre à Aéroville, qui n'est pas très loin. Bon, on sent bien que les intérêts des uns et des autres sont mis en cause. On a vu récemment un ministre faire une intervention sur Europa City pour dire que ça ne lui semblait pas être une très bonne idée.
Il s'agit de Benjamin Griveaux, qui est
ancien directeur de la communication d'Unibail, je le précise quand même. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas là un petit conflit d'intérêts dans des prises de position qui se voulaient éminemment personnelles. Je ne sais pas ce que c'est qu'une prise de position personnelle pour un ministre, mais on m'expliquera. Donc, clairement, oui, il faut mettre un coup d'arrêt à tout ça et arrêter de faire croire que les rénovations de zones constituent aujourd'hui la majorité des opérations. C'est loin d'être le cas. Ça n'est qu'une infime minorité des opérations.
Alors, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Antoine Frère, je vois que nous avons une troisième chanson qui s'appelle Pipo. Et oui, donc c'est Brigitte Fontaine.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes les plus louches n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus aux têtes creuses, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, une statue creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Oui, donc toujours en pleine forme. C'était donc Brigitte Fontaine. Je vous signale, ça rapporte, on va dire indirect, mais quand même. Vous avez aujourd'hui, ce soir, le festival alimentaire qui se trouve dans le Maine-et-Loire à Saint-Rémy-la-Varenne. Notre avenir se joue dans nos assiettes avec un maître de parole qui sera Albert Hook pour différentes tables rondes. Et ça aussi, on voit bien que les gens, bah, ils reviennent sur de la proximité un peu partout. Bon, pas forcément dans les supermarchés. En même temps, ça continue à tourner. On va y revenir. Tenez, écoutez, on parlait d'Europa City. Écoutez ce petit son.
Des gens, pas de gens. Des gens, pas de gens. Tous ensemble pour dire non à ce projet destructeur des centres-villes.
Nous ne voulons pas que les villes deviennent uniquement des villes dortoirs.
Il y a le centre commercial sur la commune de Dolné, au Paris Nord, avec 200 boutiques. Il y a depuis un an l'ouverture sur la commune de Roissy et de Tremblay, d'Aéroville, avec également 200 boutiques en multiplex. Ces deux centres commerciaux se font déjà la guerre et ne fonctionnent, en particulier Aéroville, ne fonctionne pas comme il l'avait espéré. On ne comprend pas que le groupe Auchan veuille installer entre les deux un centre commercial encore plus grand de 500 boutiques. Les premiers besoins que l'on a, on a besoin de travailler, mais le premier besoin, c'est de se nourrir. Et pour se nourrir, on aura besoin d'espace agricole. Et on sait très bien que le jour où cet espace agricole sera urbanisé, ce sera quasiment impossible de le remettre en espace agricole.
Alors même si effectivement il faut entre guillemets minimiser l'artificialisation, c'est quand même, vous le disiez, donc 4-4,5% des terres agricoles qui sont donc détournées pour mettre des hyper, des centres divers et variés. Vous le disiez donc Antoine Frey. On voit quand même, on sent que, enfin, dans votre ouvrage, Franck Gintrand, on souhaite éviter ce qu'on va appeler une américanisation, en fait, des paysages, des territoires.
Oui, malheureusement, c'est le risque, hein, aujourd'hui. C'est le risque pourquoi ? Parce que, en fait, le politique a démissionné de sa principale ou d'une de ses principales missions, qui est d'aménager le territoire. Quel que soit le talent, et je souhaite le souligner, Antoine Frey a du talent. Hein, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui développe son entreprise. Et je le comprends, c'est son rôle, il fait de l'argent et c'est normal, je tiens quand même à le souligner. Mais ça n'est pas à Antoine Frey ni aux promoteurs de zones périphériques d'aménager le territoire. Vous soulignez tout à l'heure le fait qu'on artificialise que 4% des terres. Moi, ce que je souhaite quand même dire, c'est que oui, toute opération de rénovation, toute opération de rénovation de zones s'accompagne d'artificialisation des terres, mais c'est plus grave, en vidant les villes, hein, de leur commerce et de leur vitalité, elles accentuent, elles accélèrent le phénomène d'américanisation et de fuite des ménages des centres-villes, puisque c'est bien à ça aujourd'hui qu'on arrive. Donc, ça n'est pas aux opérateurs privés d'aménager le territoire, quel que soit leur talent, et encore une fois, ils en ont.
Antoine Frey, est-ce que le e-commerce aussi ne vous pousse pas quand même sacrément aujourd'hui avec des shopping promenades, avec des projets greenfields? Bon, parfois ça fait un peu sourire quand même les gens qui s'intéressent à l'environnement lorsque l'on voit ça, mais peu importe. Est-ce que le e-commerce quand même vous oblige à vous réinventer pour faire venir des gens qui sinon restent derrière leur écran et leur souris?
Le e-commerce en France, ça représente aujourd'hui 8% du commerce de détail. C'est ce que représentait le e-commerce en Angleterre il y a 3 ans. Aujourd'hui, en Angleterre, le e-commerce représente 17% du commerce de détail. Donc cette croissance, elle est de plus de 20% par an. Effectivement, si on n'offre pas aux consommateurs une bonne raison de visiter des lieux de commerce physique, je ne vois pas pourquoi ils prendraient la peine de se déplacer, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. Par conséquent, il y a un besoin effectivement urgent d'offrir des lieux dans lesquels on offre ce qu'un écran de téléphone ne pourra jamais offrir à un être humain, c'est-à-dire une expérience à partager en famille, entre amis, entre êtres humains, parce que, qu'on le veuille ou pas, du lien social, il s'en fait en centre-ville, il s'en fait aussi en entrée de ville dans ces centres. Quand j'entends que les deux seules solutions proposées par M. Gintrand sont une taxe et un moratoire, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Une taxe, c'est un moratoire. Je vais vous dire les deux problèmes que représentent ces solutions, qui sont des solutions bien françaises, bien historiquement françaises. En faisant un moratoire, en fait, on va empêcher ces équipements commerciaux périurbains qui ont une moyenne d'âge de 30 ans de se restructurer, de se transformer pour offrir aux ces consommateurs ce qu'ils attendent. Mais on sauvera pas des centres-villes en difficulté en empêchant des entrées de ville de se recomposer et de se restructurer. La seule chose qu'on favorisera, c'est bien le commerce en ligne. Et avec une taxe supplémentaire, on va, là encore, favoriser le commerce en ligne, parce qu'on va accroître la distorsion de concurrence qui est liée à une inéquité fiscale aujourd'hui entre la fiscalité que paye un grand vendeur en ligne,
oui,
américain, pour ne pas le citer,
et Amazon,
et la fiscalité qui pèse sur le commerce physique, qui elle est essentiellement assise sur l'immobilier. Donc une taxe taxée et empêchée, si c'était pour ça que M. Gintrand a écrit ce livre, je pense qu'on aurait peut-être gagné en bilan carbone à pas l'écrire le livre.
J'entends bien. Non mais c'est bien. Vous avez un bon échange, Fleury Moucheter, c'est parfait. Voilà, Franck Gintrand par rapport à ça.
Alors c'est dommage parce qu'on termine sur le e-commerce et c'est un vrai sujet en soi. C'est à se demander pourquoi les zones commerciales se multiplient, hein. Si le e-commerce tue tout sur son passage, visiblement les zones commerciales, elles sont sont plutôt résistantes à ce phénomène. Il se trouve que c'est évidemment un argument qui est agité aujourd'hui par la grande distribution et les promoteurs de centres commerciaux vis-à-vis du pouvoir politique pour dire « Ah non, mais surtout, laissez-nous vivre, sans quoi Amazon va tout ravager. »
Alors, e-commerce, juste pardonnez-moi, qui actuellement bouffe de la terre agricole. C'est-à-dire que c'est plutôt eux, c'est ce que l'on voit aussi, entre les dépôts des centres de logistique, etc.
Alors les dépôts de centres logistiques d'Amazon sont loin de rivaliser avec l'invasion des zones commerciales. Je crois qu'on est dans des ordres de grandeur qui n'ont en réalité pas grand chose à voir. Monsieur Frey n'est pas contre, n'est visiblement pas pour.
Logistique d'Amazon. On met 2 ans pour faire une plateforme logistique d'Amazon. On met 15 ans pour faire un centre commercial.
Monsieur Frey, je ne vous ai jamais interrompu.
On fera l'émission. Donc voilà. Alors ce que je vous propose. Bon, le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes, c'est aux éditions Thierry Suzuka. Plein d'informations. Il y en a d'autres aussi. On va vous dire c'est contradictoire. C'est parfait. Donc merci à vous Antoine Frey. J'aurais bien voulu qu'on parle de l'Allemagne. On y reviendra donc aussi pour montrer ce qui se passe. Merci à Clément Vuillet, à Camille Blanès, à Henri-Marc Mutel, à nos amis donc de France Bleu Champagne à Reims qui vous ont accueilli, Antoine Frey. Merci aussi d'être venu dans cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où cela à Bordeaux, en bord de Garonne. On sera en direct au H14, le hangar 14, pour le festival ZZ. Donc venez, allez, la tuile du bon petit loup, ce sera à 19h54 demain. Bon, il faudra attendre quand même dimanche.